Notre Dieu, nous sommes conscients que ta parole est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme, nous dit ta parole. Et il n'y a aucune personne ici présente qui échappe à ton regard. Tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous en sommes conscients, Seigneur. Et nous te demandons donc, par ton esprit, d'être présent parmi nous, de nous éclairer, de nous fortifier. Et cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, cette semaine, c'était la semaine dernière, c'est souvent à un moment où nous envoyons des photos de vœux à des amis un peu partout dans le monde. Nous essayons aussi de faire ça, parfois par WhatsApp, parfois par d'autres moyens. Et j'ai envoyé une photo de notre famille cette semaine à un vieil ami. Je ne le vois plus très souvent et il ne m'a pas vu. Il n'a pas vu la famille depuis un long moment. Et lorsqu'il a reçu la photo, il m'écrivait tout de suite pour me dire ceci. Au moins, c'est clair, il disait, que c'est l'un des parents qui est parent de ses enfants. Il voulait dire « mon épouse », car selon lui, il n'y a pas beaucoup de gènes du papa qui ont été transmis aux enfants. Je ne sais pas s'il a raison, et en tout cas, si c'est vrai, tant mieux pour mes enfants, n'est-ce pas? Mais ce qui est plus troublant, c'est que non seulement des ressemblances physiques sont transmises à la prochaine génération, mais aussi des ressemblances de caractère, y compris nos fautes et nos failles. Là, c'est sûr, ma part génétique a bel et bien été transmise. Je pense que c'est l'une de mes sœurs, elle, pas chrétienne, qui m'a appris que souvent ce que nous n'aimons pas chez l'autre, surtout chez notre conjoint ou chez nos enfants, c'est ce dont nous ne sommes pas fiers en nous-mêmes. Une part, je pense, de la tension dans la famille vient de ce fait-là, que nos enfants nous ressemblent de trop. Évidemment, cela n'enlève en rien notre propre responsabilité par rapport à nos fautes devant Dieu. Mais le dicton « tel père, tel fils » contient du vrai qui est perturbant pour nous, nous les parents, lorsque nous réfléchissons à nos manquements. Certainement, c'était vrai cela pour David et ses fils, comme nous voyons en pleine lumière dans ce texte sobre, comme disait Benjamin, que nous avons lu, le chapitre 13, mais aussi le chapitre 14, on va réfléchir ensemble. Nous reprenons ce matin l'histoire de Samuel à un moment où David lui-même, juste avant, vient d'échouer en long et en large sur le plan éthique. Lui, le roi choisi par Dieu, le roi selon le cœur de Dieu lui-même, chassé, lui, pendant des années par Saül, son prédécesseur. David, ensuite le roi vainqueur, le roi béni par Dieu à tous égards, le roi qui a cœur la gloire et l'honneur de Dieu. Lui, ce David-là, de façon délibérée et réfléchie, commet un adultère, peut-être même un viol, avec Bathsheba. Et ensuite, il tue le mari de Bathsheba, Uri. Le chapitre 13 de 2 Samuel nous présente donc Amnon, le fils aîné de David et Absalom, le prochain fils en vie de David et donc le second dans l'ordre de succession du trône. Le demi-frère Absalom d'Amnon, car il n'avait pas la même mère. Amnon commet un viol et Absalom un meurtre. À qui est-ce qu'il ressemble? À aucun moment le texte fait explicitement le lien avec David le père, car le texte n'a pas besoin de le rendre explicite, c'est clair. Et c'est le début donc du déclin du royaume de David ici. Nous reprenons à froid, nous, cette histoire. Mais si on avait lu le chapitre 12, juste avant, on aurait en tête ce mot prophétique de Nathan qui s'adressait à David à ce sujet. Donc, chapitre 12, verset 10 à 12. « Maintenant, dit Dieu à David, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur, je suscite un malheur contre toi du sein de ta maison. Toi, avec séduce, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. » Et à la face donc de l'église de Woolway ce matin, nous lisons encore cela publiquement et nous observons, nous sommes témoins du déclin du royaume de David. Chapitre 13 alors, c'est le début de la réalisation de ce que disait Nathan. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce message, si vous suivez le plan, « Les indices d'un royaume défectueux ». Parce que c'est ça ce que nous voyons dans le chapitre 13, dans le chapitre 14. Tout ne tourne plus rond pour le royaume de David. Ni pour David, ni pour son royaume. Survoler ces deux chapitres, c'est de spectateur à toute une série de choses qui soit se heurtent à nos sensibilités, nos antennes morales, soit témoignent d'un certain malaise. Le narratif est donc déstabilisant. Il n'y a pas toujours de repère clair pour comprendre la portée de ce qui se passe. Quel est le but d'un tel portrait du royaume de David? En partie, je crois, cela nous pousse à discerner la main providentielle de Dieu. Malgré la confusion qui règne, Dieu accomplit ce qu'il avait désigné pour David. Et ainsi, ça nous pousse à nous tourner vers notre Dieu. Notre Dieu souverain est bon. Pour une issue, nous cherchons une issue à ce royaume défectueux et dysfonctionnel. Et nous verrons cela lors de notre conclusion, bien entendu. Le réconfort d'un tout autre royaume, c'est le deuxième point ou la conclusion pour aujourd'hui. Car si David nous montre les limites de tous les royaumes, de tous les hommes de ce monde, cela nous fait aspirer à un royaume meilleur. Et nous nous réjouissons en tant qu'Église de Jésus-Christ de professer, confesser notre foi en Jésus-Christ, en qui ce royaume promis et meilleur se réalise. Et donc là, dans ce qui va suivre, nous allons voir ensemble 5 indices dans ces deux chapitres, 13 et 14, que nous n'avons pas lus, de ce royaume défectueux. Évidemment, le centre du chapitre 13, c'est le viol de Tamar, de la part d'Amnon. Mais nous n'allons pas commencer avec ce point-là, car le texte ne commence pas par là. Mais le premier indice, c'est ce que j'avais appelé l'habilité plutôt que la sagesse. Parce que le premier acteur mis en avant dans le texte, qui nous met dès le début un peu mal à l'aise, c'est un personnage un peu moins connu, verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, le frère de David. Donc c'est le neveu de David, Jonadab. Et dit le texte, Jonadab était un homme très habile. Le mot traduit ici par « habile » aurait pu être traduit « sage ». Mais justement, compte tenu du contexte, ils choisissent plutôt l'habilité, ceux qui traduisent ce texte. Car ce que fait Jonadab est justement pas sage, mais rusé. Comme un bon fonctionnaire, il facilite, lui, la réalisation de la volonté de ses supérieurs. Jonadab voit Amnon triste et frustré de ne pas pouvoir avoir accès à Tamar, cette fille de David qui est belle et qui est aussi sa demi-sœur. Il gagne donc la confiance d'Amnon. Il suggère un plan pour que Amnon puisse voir Tamar en tête à tête. Et son plan réussit. car il est un homme sage, habile. Mais le début de la vraie sagesse, nous dit la Bible, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Non pas le pouvoir de faciliter le péché. Et Jonadab apparaît encore à la fin du chapitre 13, peut-être vous l'avez remarqué, pour apaiser la douleur de David qui croyait, après le meurtre d'Amnon, il croyait le premier rapport qui lui est parvenu en disant qu'Absalom a tué tous ses autres fils. Non, non, disait Jonadab verset 32, ne dis pas ça, Amnon seul est mort. Mais comment Jonadab savait cela? Il n'était pas là-bas, il était toujours avec le roi. Bien entendu, car Absalom lui en avait parlé, de son projet. Car Absalom, sans doute, faisait également confiance à ses capacités rusées de Jonadab. Dans les deux cas, Amnon et ensuite Absalom, avait-il Jonadab agi pour mettre à terme ses projets pleins de méchanceté? Non. Non, le conseiller agit pour faciliter les projets de ces hommes, peu importe leurs intentions, bonnes ou mauvaises. Les conseillers de ce type n'ont pas l'apanage de l'Ancien Testament, non. 2 Timothée chapitre 4, verset 3, dans le Nouveau Testament, parle de notre époque, chers amis. Au contraire, parlons des faux docteurs, ayons la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Donc ils adaptent ces enseignants, ce qu'ils disent, pour que ça colle à la société actuelle, à ce qu'on veut de eux. Et Jonadab, lui, il n'est pas le seul d'agir ainsi dans ce texte. Parce que le chapitre 14, on entend parler de Joab qui engage une autre stratégie afin de faciliter le retour d'Absalom dans la cour du roi. Il engage, lui, une femme de Tekoa. Une femme, nous dit le texte, chapitre 14, verset 1, sage. Mais avec elle, il concocte une histoire de deux fils qui se bagarrent et dont l'un meurt. L'autre est banni et menacé de mort. David, donc, du coup, doit intervenir pour garantir la protection du fils qui devait partir. Et il le fait. Mais à terme, il comprend que ce n'est qu'une histoire et que c'est Joab qui est derrière cette concoction. Il cède donc David, malgré lui, à la pression de laisser revenir Absalom à Jérusalem. Le plan, voyez-vous, de Joab aussi réussit. On suppose qu'il voyait, Joab, le danger pour le royaume de David d'avoir un fils, Absalom, puissant et populaire, qui commençait à s'installer de plus en plus dans un autre coin. Il voulait agir, Joab, on suppose, avant qu'il soit trop tard pour David. Mais y a-t-il de la sagesse dans ce qu'il fait? L'issue n'est pas la réconciliation pour finir avec David, mais une tension qui monte. Quand même lorsque Absalom revient, chapitre 14, verset 24, David le garde à distance. On suppose que David n'arrive pas à trancher entre sa conscience et ses émotions par rapport à ses fils. Donc Joab, il est le portrait, c'est d'un homme pragmatique. Courageux, oui, parfois, mais droit, pas toujours. Lorsqu'il y a donc habilité plutôt que sagesse qui prend le devant de la scène, dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église est en danger. Lorsqu'on agit par pragmatisme et plus par principe, l'Église est en danger. Deuxième indice, chers amis, l'abus plutôt que l'amour. Ce deuxième indice, c'est le plus dur à entendre, bien entendu. Car à partir du verset 6 du chapitre 13, Amnon met en œuvre le plan de Jonadab. Il joue le malade, il dupe son père de lui envoyer sa demi-sœur, il fait sortir tout le personnel de la pièce, il fait venir Tamar tout près de lui pour lui donner à manger. et ensuite il l'a saisie. Malgré les avertissements de Tamar, il l'ignore. Et dans verset 14, il se sert de sa force physique pour l'abuser. Il coucha avec elle, dit le texte. Verset 2 nous dit que Amnon, fils de David, aimait Tamar. Mais bien entendu, ce n'est pas l'amour dont il s'agissait. Il confondait, bien sûr, dans la méchanceté de son cœur, l'amour avec le désir. Il aurait dit que son désir était plus fort que lui. Pour lui, on voit les relations sexuelles ne sont pas un moyen par lequel le couple se donne à l'un et à l'autre pour pouvoir approfondir et renforcer leur union, et cela dans le cadre, le mariage qui privilégie la protection de l'autre pour l'ensemble d'une vie commune. Non, ces désirs avaient pour but le seul objectif de satisfaire ses propres envies, d'exploiter l'autre pour le profit de sa propre personne. Et bien sûr, lorsque nous faisons cela, on rend l'autre comme un objet. C'est le fait d'objectiviser une autre personne. Au lieu de traiter cette personne comme une personne avec toute la dignité qui découle d'être créée à l'image de Dieu. Non, c'est une personne qui devient plutôt rien qu'un objet. Tamar est un objet à exploiter. Et Amnon n'est pas le seul d'agir ainsi. Il ne sera pas le dernier. Chaque fois, chers amis, que nous cherchons, que nous portons le nom de Christ ou pas, un épanouissement sexuel en dehors du contexte d'un engagement relationnel qui impose des exigences sur nous-mêmes, nous faisons preuve de ce même réflexe d'Amnon. Et lui, il donne libre cours à cet instinct animal. Il se laisse aller à un point où il s'en fiche de qui il est question, et qu'il est question donc de viol et d'inceste. Tamar, elle, dit vrai lorsqu'elle lui dit, verset 12, que c'est inadmissible en Israël ce qu'il fait. Ne commets pas, dit-elle, une telle folie. Et toi, tu serais comme un fou. Alors, la folie et être un fou n'est pas quelque chose d'un peu insensé, comme parfois on utilise ce langage aujourd'hui, un peu irréfléchi. Ah, t'es un peu fou, toi. Non, selon la Bible, c'est plus fort que cela. Écoutons juste ce texte en Ésaïe 32, verset 6, qui nous décrit ce que c'est un fou, bibliquement parlant. En effet, le fou parle avec folie et son cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'Éternel. Il laisse ainsi celui qui a faim l'estomac vide et écarte la boisson de celui qui a soif. Voici Amnon. Car Tamar est traitée de cette manière-là. Ensuite, elle est délaissée, verset 15. Puis Amnon se mit à la détester de tout son être. Il la détesta plus encore qu'il ne l'avait aimée. Tout d'un coup, l'amour qu'il croyait avoir se révèle pour ce que c'est, de la haine. Il lui dit, « Lève-toi, va-t'en !» Et elle lui répondit, « Tu ferais un plus grand mal encore en me renvoyant. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela son serviteur personnel et lui dit, « Renvoyez-moi celle-là. Dehors, je vous prie. Verrouille la porte derrière elle. » Effectivement, le fait de la voir après l'acte, c'était d'être confronté de sa propre obsession, de la voir traitée comme un objet. Mais donc, du coup, verset 21, Tamar prend refuge chez son frère Absalom. Absalom lui dit de garder le silence. C'est ce qu'elle fait. Car nous n'entendons plus parler de Tamar dans la Bible tout entière. délaissée même dans le texte biblique pour renforcer la réalité émotionnelle et relationnelle qu'impose la méchanceté d'Amnon. C'est inadmissible. Et aujourd'hui encore, chers amis, c'est inadmissible. Cela doit nous faire réfléchir à une époque où nous estimons être libérés du cadre dont pouvoir notre Créateur pour jouir de notre sexualité. Où le danger de se saisir de la sexualité pour mes propres objectifs est quasi partout sur le devant de la scène ici, en Occident. L'épanouissement, la satisfaction sexuelle tourne aujourd'hui autour de moi et de mes désirs. Mais dire que c'est inadmissible en Israël, comme le dit Tamar, n'est pas sans ironie, chers amis. Car le roi lui-même, bien évidemment, deux chapitres plus tôt, a déjà fait preuve de cet abus, lui. Et dire que c'est inadmissible encore pour l'Église de Jésus-Christ ne signifie pas, hélas, que l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes n'est plus du tout sur le devant de la scène parmi nous. Ne soyons, chers frères et sœurs, pas naïfs par rapport à la tentation de chercher ma propre satisfaction de par la sexualité et donc de tomber sous la tentation sous toutes ses formes. Entendons encore la voix de Tamar ici dans ce texte qui plaide avec Amnon, mais qui plaide par la suite avec nous, de ne pas commettre une telle folie. L'abus plutôt que l'amour. Troisième indice, c'est l'indécision plutôt que le leadership. Ce qui frappe ici, c'est le contraste. D'un côté, il y a l'émotion de David lorsqu'il apprend la nouvelle, verset 21. Le roi David apprit tout cela, et il fut très fâché. Amen. Mais de l'autre côté, il y a l'absence d'action de la part de David. Car bien qu'il soit fâché, il ne fait rien. Et 2 ans passent. Ce n'est pas que David est un père ordinaire, peut-être comme vous et moi, et il se dit, mais que puis-je faire ? Je me souviens de mon grand-père qui disait par rapport à son fils, mon oncle qui a 51 ans ou qui avait 51 ans à cette époque, et on parlait de malheureusement une faute, peut-être pas exactement ce genre de faute, mais il parlait de son fils à 50 ans. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? Il a 50 ans. Il ne pouvait plus rien faire. Mais ici, ce n'est pas juste David, un père ordinaire. Car David, verset 21, fait exprès de le souligner, est le roi. Il fallait agir. Pas avec indulgence envers son fils, mais avec solidarité avec sa fille. Et justice envers Amnon. Évidemment, David, lui, il est compromis, car punir son fils pour un acte dont il est coupable lui-même devient difficile. Cela explique son indécision, probablement. Mais cela ne l'excuse pas. Ce roi est compromis, et ce n'est pas beau à voir. Ce portrait donc d'un David indécis et du coup affaibli devant ses fils continue lorsque le récit se tourne vers Absalom et son plan de tuer son frère. Lorsque Absalom supplie son père pour qu'Amnon fasse partie du groupe qui rejoigne Absalom lors du passage des tendeurs de moutons chez lui, David semble soupçonner le vrai motif de son fils. Verset 26, le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi ? Il hésite, il comprend qu'il y a quelque chose là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse aller quand même Amnon. Et après le meurtre d'Amnon et le bannissement d'Absalom au chapitre 14, si d'un côté il consent au retour d'Absalom à Jérusalem, de l'autre côté, une fois qu'Absalom y arrive, le roi se résout de ne pas le voir. Ensuite, après l'intervention de Joab, il consent de le recevoir au palais. Et le chapitre 14 termine au verset 33 en affirmant « Le roi embrassa Absalom ». Mais il n'y a pas de soulagement lorsque nous lisons cela, car ce n'est pas des retrouvailles comme il s'agissait du retour du fils prodigue, non. C'est ambigu, car le pardon n'est ni cherché ni accordé. Et cela parce que David n'a pas exercé le leadership nécessaire. C'est moche. Et c'est bien ce qui se passe lorsqu'un manque d'autorité morale rentre aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Prenons d'abord un exemple anodin. Qui es-tu de me dire que je dois arriver à l'heure pour le truc que toi tu organises, tandis que quand d'autres organisent quelque chose, toi tu n'arrives jamais à l'heure? Déjà, rien qu'avec ça, il y a du vrai dans une telle critique, n'est-ce pas? Si on veut être un leader, nous devons montrer l'exemple. Ça ne tient pas pour un long moment. Si nous exigeons quelque chose de quelqu'un d'autre sans le faire nous-mêmes. On monte un cran dans les exemples. Qui sommes-nous dans l'Église à dire à un nouveau couple que la cohabitation ne doit pas se pratiquer si on découvre que ses responsables ont pratiqué cela eux-mêmes? Qui sommes-nous de dire que le baptême est le signe d'entrée dans la foi et donc, a priori, doit procéder à la participation à la Sainte Cène, signe que je continue moi-même à dépendre de la grâce de Dieu, si je ne suis pas, lorsque je dis cela, baptisé moi-même? Et qui sont-ils, ces responsables d'Église, à penser exercer la discipline dans le cas d'un frère ou d'une sœur qui ne vient pas régulièrement à leur assemblée, lorsqu'ils ne disent pas la même chose à leurs propres enfants ou à quelqu'un qui leur est proche, et aussi dans les mêmes églises? Tous ces exemples, chers amis, sont des exemples, des indices d'un royaume défectueux. C'était le cas pour David, et c'est le cas encore aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ, si nous faisons preuve de ce genre d'indice. Donc, troisième indice, l'indécision plutôt que le leadership. Quatrième indice, encore deux, la vengeance plutôt que la justice. Absalom, quant à lui, fait preuve d'un excès de leadership, on pourrait dire. Car chapitre 13, verset 23, 2 ans sont passés sans que David fasse la moindre chose pour punir Amnon. Et aucune donc action n'a été prise. Le roi échoue dans ses responsabilités. Ah, donc pour Absalom, il est temps d'agir, hein, donner une expression concrète de sa haine pour Amnon. Et donc, il se sert du prétexte du passage des tendeurs de ses moutons chez lui pour rassembler la famille, pour garantir la présence d'Amnon. Ensuite, faisant preuve d'un homme qui donne des ordres et qui commande l'obéissance absolue de ses serviteurs, en se servant, verset 28, des encouragements que ailleurs dans la Bible sont souvent sur la bouche des vrais serviteurs de Dieu. « N'ayez pas peur, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez forts et vaillants. » Mais lui ne profère pas de tels encouragements pour exécuter la volonté de Dieu, mais afin d'exécuter son propre projet de vengeance. Bien sûr, l'histoire joue un petit peu avec nos émotions. Vous avez peut-être eu ce ressenti lors de la lecture, car en partie, c'est juste ce qui arrive à Amnon. La vengeance, après tout, cherche à imposer la justice. Mais le problème, c'est que la vengeance, lorsqu'elle est exercée par des individus, au lieu de résoudre le problème de justice, car ces individus ne sont jamais justes parfaitement eux non plus, crée encore d'autres problèmes. Et l'effet, donc, est contre-productif. C'est ce qui arrive dans cette histoire. L'Écriture nous dit que de façon ultime, la vengeance est à Dieu. Il punira de façon juste et mesurer tout tort qui existe, qui a jamais eu, qui va y avoir dans le futur. Et en partie, il pourvoit ici-bas des autorités avec de la responsabilité jusqu'à un certain point de se servir de l'épée, de punir le méchant, comme, tout comme il investit de l'autorité dans les responsables d'une église même, d'agir lorsqu'il y a une dérive grave de la part de l'un des membres de l'église. Mais Absalom, à ce stade, s'en fiche de ces autorités mises en place par Dieu. En partie parce que David a échoué dans ses responsabilités, justement. Il veut, lui, être celui qui punit. Tout comme à la fin du chapitre 14, cet homme d'action, ramené à Jérusalem par Joab, mais qui reste encore 2 ans, verset 28 du chapitre 14, sans paraître dans la présence du roi, il est fâché par cela, il décide de faire le nécessaire pour attirer l'attention de Joab. Il met à feu son champ. Waouh! Un homme d'action. Il prend l'initiative. Mais il ne reconnaît pas le pouvoir investi en David, son père, le roi. Et ça fait mauvais signe. Tout comme le désir de punir qu'il peut y avoir au sein de l'Église fait mauvais signe, chers amis. Surtout si pour l'une raison ou une autre, nous croyons que les autorités en place ont échoué dans leur propre responsabilité. Tendance de voir les autres qui disent « Ok, mais on y va, nous allons faire le nécessaire. » Ça fait mauvais signe. La vengeance est à moi, dit le Seigneur, pas à nous. Mais nous avons du mal avec cela. Que cela soit le fait de ne plus parler à quelqu'un lorsque quelqu'un d'autre nous a fait du tort. Ce n'est pas de punir, ça, c'est juste de ne pas parler. Si, c'est de punir. C'est votre façon d'essayer de rendre justice au lieu de résoudre le problème de justice. Que cela soit le réflexe de reprendre quelqu'un publiquement, afin de les humilier, au lieu de poursuivre ce que Dieu dit, d'aller d'abord voir la personne en face à face, et ensuite voir les autorités en place. Non, je veux juste qu'ils souffrent, je vais les humilier devant les autres. Vous savez que l'Église de Jésus-Christ prie que ton règne vienne, et ça c'est un règne où le droit jaillira comme un cours d'eau, pour citer le prophète Amos, et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Nous devons patienter pour voir la justice parfaite de notre Dieu. Ce n'est pas à nous de ne pas en prendre ça en main pour nous-mêmes. Quatrième indice, donc la vengeance plutôt que la justice. Et dernier indice, avant d'arriver à notre conclusion, la forme plutôt que le fond. Ce qui frappe lorsqu'on arrive à la fin du chapitre 14, c'est effectivement la forme, la physique impressionnante d'Absalom. Verset 25, il n'y avait pas dans tout Israël d'homme aussi beau ni aussi comblé d'éloges qu'Absalom. Aucun défaut en lui, dit le texte. Mais ça fait peur lorsque nous lisons cela. Pas le fait qu'il soit beau en soi, non, même David, lui, avait une belle apparence. On a appris ça dans 1 Samuel. Mais cela, lui, est monté à la tête, Absalom. Cela rappelle aussi le lecteur attentif d'un autre personnage des livres de 1 et 2 Samuel, flatté par son apparence, Saül. Quand on sait qu'il y a de l'ironie ici, si physiquement il était parfait à tous égards, d'un point de vue de son caractère, on ne peut pas dire la même chose. Et cela fait mauvais signe pour la suite, pour le royaume, pour l'Église de Jésus-Christ. C'est aussi un danger de se faire duper par ceux qui ont l'air, par la forme, des crédibles. Ils viennent avec des discours persuasifs, des publicités tapant à l'œil, mais qui, quant au fond, encouragent, plutôt un attachement à l'homme. Et ils sont moins concernés par leur propre caractère. De tels leaders sont appelés des loups déguisés en brebis. Si Paul devait rappeler à Timothée, à titre des critères de base pour devenir ancien et pasteur, qui mettent un accent pas sur les compétences d'une telle personne, mais plutôt sur le caractère d'une telle personne. C'est parce qu'il y a un danger, encore dans l'Église aujourd'hui, d'être impressionné par la forme externe. Quelqu'un qui sait parler, mais qui vit autrement. C'est dangereux. Ils se peuvent, vous voyez à la fin du chapitre 14, qu'Absalom est convaincu que la forme marche pour finir. Peu importe le fond. Il dit à Joab, verset 32 du chapitre 14, « S'il y a une faute en moi, qu'il, le roi, me fasse mettre à mort. » Le roi finit le chapitre en le recevant, plutôt que de le mettre à mort. Et donc on peut bien imaginer qu'il croit absolument à son propre discours. Il n'y a pas de faute en moi. Je suis le leader qu'il faut. Ce n'est pas le cas qu'il est le leader qu'il leur faut. Mais que nous fassions bien attention de trop vite déduire de nos circonstances, une circonstance du moment, que cela doit signifier la bénédiction ou l'approbation de Dieu. La réussite ou la grandeur n'est pas la garantie de l'approbation de Dieu. Car ce qui compte devant Dieu, c'est la fidélité à Dieu, la confiance en lui, en sa parole, et l'humilité par rapport à nous-mêmes. 5 donc indices, chers amis, d'un royaume défectueux. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Avant de chanter ensemble, nous allons réfléchir juste brièvement sur le réconfort d'un tout autre royaume. Nous voyons le besoin de ce royaume lorsque nous nous rendions compte des failles de ce royaume de David. Et nous voyons encore le besoin de la venue de ce royaume lorsque nous observons et nous confessons nos propres manquements en tant qu'Église, en tant qu'individu. Pour les croyants en Jésus-Christ, qui regardent en arrière au royaume de David, nous pouvons nous réjouir du royaume de Jésus-Christ qui permet cette confiance en Dieu qui veut de nous plutôt qu'une confiance en nous-mêmes parce que lui n'arrive pas à faire le nécessaire. Non, le royaume de Jésus-Christ permet, lorsque nous observons les tendances que nous avons évoquées, même dans l'Église, de confesser notre péché, de nous retrouver autour des repères plus fiables que ces repères dont nous donne le royaume de David. Et nous retrouvons aussi un roi digne de notre confiance, car en Jésus, nous avons affaire à un tout autre royaume, un tout autre roi. Nous nous retrouvons autour d'un leader, lui qui ne cherchait pas sa gloire à lui, qui aimait d'un amour sacrificiel, comme il se doit, qui avait le courage de mener même lorsque cela lui coûtait cher, qui sur la croix prenait sur lui-même la punition que mérite notre péché, qui satisfaisait ainsi le besoin qu'il y a de justice, de vengeance, tout en permettant par ce même acte le pardon, la paix et la réconciliation. Lui qui, en apparence, n'était pas fort impressionnant, mais quant à sa droiture, sa justice, il était sans faute. Ce roi, le roi Jésus, est à la hauteur de nos attentes et de nos besoins. Oui, hélas, parfois encore dans l'Église, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que le Seigneur Jésus nous demande. Mais prenons, chers amis, refuge dans la connaissance qu'un jour, ce royaume viendra parfaitement, pleinement. Et cela parce que Jésus est le roi qu'il nous faut. Je termine avec J'ai deux, trois versets de Tite qui parlent de comment est-ce que nous nous sommes laissés à nous-mêmes si on pense être supérieurs à ces personnages qu'on a vus. Tite 3, verset 3. Nous aussi, en effet, nous, donc nous confessons cela ensemble. Nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. C'est un portrait sobre aussi de l'homme, laissé à lui-même, ses amis. Mais verset 4 de Tite 3, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Si nous avons le réconfort d'un tout autre royaume, c'est parce que nous avons un roi, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous qualifie pour ce royaume-là. Alors, je vais prier, chers amis, et ensuite, déjà, on peut demander aux musiciens de s'approcher. Je pense que nous allons quand même chanter « Pardon, Seigneur, pardon » pour confesser ensemble nos failles. Donc, on attend que les musiciens soient là, et puis on prie, et puis on prie collectivement en chantant « Pardon, Seigneur, pardon ». Alors, prions ensemble. Combien, Seigneur, nous voyons le besoin du royaume de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, nous voyons ce besoin. Nous te glorifions que ce royaume a démarré avec la venue de Jésus. Et déjà, dans l'Église, nous voyons des hommes et des femmes justifiés par ta grâce et qui font partie de cette famille, qui manifestent le fruit de l'Esprit dans la vie, pas encore parfaitement, mais d'une manière authentique, parce que la bonté de Dieu, de notre Sauveur, son amour pour nous s'est manifesté en Jésus-Christ. Combien nous te louons pour le fait de confesser Jésus-Christ comme notre roi. Et combien nous te demandons, Seigneur, de nous protéger du mal, en tant qu'Église, en tant qu'individu, dans nos familles respectives, nous te demandons, Seigneur, que tu agis pour ta gloire, au nom de Jésus.